Bonjour Claire.
Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette revue de presse du 29 novembre 2022. Voici les titres d'actualité. Nous allons commencer par parler de la résilience. Alors, comment accepter ces fragilités ? Je vous lirai un article qui est actuellement en ligne sur le site de l'Invisible, article proposé par Damien Leguet, donc qui nous met en garde sur l'utilisation de ce mot afin qu'il n'en perde pas tout son sens et sa force. Nous irons ensuite visiter le village Saint-Joseph, un lieu au service de la dignité de la personne. Je vous lirai l'article de présentation paru dans L'Homme Nouveau, numéro 1771, et je vous donnerai deux témoignages de personnes accueillies, Bruno et Nicolas. En culture chrétienne, alors aujourd'hui ça va être un peu particulier. Je vous propose une autre forme, donc plutôt un salon littéraire. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la dystopie, un genre littéraire très prisé par nos adolescents. Donc nous allons définir ensemble ce que c'est, quels sont les risques et quels sont surtout les avantages aussi qu'un jeune peut tirer en présence d'un adulte bien éclairé. Et pour, après clore ce salon littéraire, je vous propose une petite lecture analytique et synthétique de deux sagas cultes qui ont concilié justement la foi dans la littérature et la littérature dans la foi, Star Wars et Le Seigneur des Anneaux avec la série Les Anneaux de Pouvoir. Nous commençons cette revue de presse avec la résilience. Soyez résilients. Injonction ô combien à la mode, comme vous le savez, la résilience semble être le chemin obligatoire à emprunter pour aller mieux et réussir à traverser une épreuve. De ces crises, donc, on sortirait ainsi forcément grandi. Alors Damien Leguet revient pour nous sur ce terme qu'il faut veiller à ne pas utiliser de façon abusive et donc galvaudée, risquant en fait de lui faire perdre tout son sens et sa force. Au départ, la résilience est un mot emprunté à la physique, utilisé pour parler d'un métal qui supporte les chocs. En psychologie, il indique la capacité à surmonter un traumatisme perçu comme inacceptable, qui se caractérise par son aspect exceptionnel. Il n'est pas normal, facile ou habituel, d'être résilient. Ce terme devenu à la mode, la société nous enjoint souvent à l'être, dans la lignée de la phrase de Nietzsche, « Ce qui ne tue pas te rend plus fort ». Mais attention! Car ce mode de fonctionnement, nécessaire et obligatoire, induirait une forme de bonne volonté. Et il n'en est rien. Cette approche contient même quelque chose de pervers, car mal ajusté. Si on oublie que la résilience est exceptionnelle, on fait culpabiliser celui qui n'y arrive pas et serait perçu comme un faible. Gardons qu'à ne pas l'utiliser comme un mot valise à mauvais escient. La vraie résilience, c'est donc cette capacité extraordinaire qui nous permet de surmonter des effets catastrophiques ou des traumatismes explicites ou implicites. Elle permet de sortir d'une situation d'effroi ou de contrainte inacceptable. Tel un nageur qui se meut en apnée sous la croûte de glace de l'Arctique et tient jusqu'à trouver le trou d'eau lui permettant de sortir enfin la tête de l'eau in extremis. L'homme échappe alors à une impasse psychologique et humaine de nature mortifère. Alors, quelles sont les pistes pour réussir, comme ce nageur, à sortir la tête de l'eau ? Aucune recette miracle, nous rappelle Damien Leguet, mais quelques jalons qui peuvent aider. Il s'agit avant tout d'une disposition d'esprit qui peut naître après avoir assumé ses fragilités et se sentir assez en confiance pour les exprimer. Cette étape permet de cerner précisément ce qui me détruit, de nommer, d'assumer les peurs, les angoisses. Ainsi, le traumatisme qui vit en moi est peu à peu délimité. Commence alors une phase de questionnement pour le comprendre. De quoi s'agit-il ? Comment puis-je le nommer ? Quelles émotions provoquent-ils en moi ? Le second écueil est la gestion de la mémoire. Et ce n'est pas une mince affaire. Lors d'un traumatisme, deux sortes de mémoires se mettent en place. Celle qui cache, donc je me refuse à y penser, j'enfouis mes peurs, et celle qui apparaît, donc je suis obsédée par ce traumatisme. Le travail consiste à naviguer entre ces deux excès que sont l'oubli et la mémoire obsédante. La bonne nouvelle, c'est que chacun possède en lui-même des ressources totalement insoupçonnées, imprévisibles, qui naissent de ces situations traumatiques. Qu'est-ce qui, à l'extérieur de mon traumatisme, me donne un élan de vie ? Dans ces situations, des forces immenses sont réveillées et permettent de lutter en moi contre bien des effets négatifs. Et si on est résolu à sortir de cette situation, alors cette résolution annonce déjà le début de la fin de cet état. On entre alors dans une tension. La bonne volonté cherche désespérément les voies de la raison pour changer d'état. Reste à embraser sa responsabilité avec douceur et tendresse envers soi-même. Alors, les 5 clés pour un chemin de résilience. La première, goûtez au silence. Pour faire germer ce dont vous avez besoin, pour écouter cette voix intérieure, pourquoi ne pas prendre un temps de retraite ou quelques jours à la campagne ? Une façon d'accepter que vos faiblesses fassent surface et de les accueillir avant toute chose. Deuxième clé, donnez du temps au temps. Pas de brusquerie envers soi-même. Chaque humain digère un traumatisme de façon différente et il faut accepter le rythme qui est le vôtre. Troisième clé, osez parler de son traumatisme et se faire accompagner. Comment réussir à avancer si la parole ne peut pas sortir ? Ne pas garder cette souffrance pour soi aide à la reconstruction. Que l'on exprime cette douleur par le biais de discussions avec des amis proches ou avec un thérapeute. Le maître mot est d'oser parler sans honte. Quatrième clé, s'investir dans un nouveau projet. Pour se décentrer doucement de sa douleur, avoir un projet différent est une bonne aide. Ça peut être un investissement dans une association, dans un cours qui développe des talents, par exemple le dessin, le théâtre. Et enfin, dernière clé, prendre la responsabilité de sa vie. Combien il est difficile de rester actif lorsqu'un traumatisme survient. L'écueil consiste à se défausser en invoquant le mauvais sort. Encore une fois, il n'y a pas de résilience sans accompagnement. Psychothérapie, écoute, compréhension, qui permet de se nourrir et repasser en mode actif. Et pour terminer cet article, un petit témoignage de Clotilde, 35 ans, qui a traversé pendant plusieurs années la grande douleur de multiplier les fausses couches sans explication. Elle nous dit « Je me suis mariée assez jeune et avec mon époux, nous nous sentions prêts à accueillir des enfants. Je ressentais ce grand désir au fond de mon cœur depuis longtemps. Mais tout ne s'est pas déroulé comme nous l'imaginions. Au fil des années, j'arrivais à tomber enceinte, mais les grossesses n'arrivaient pas à terme. Au début, on y croyait. On se disait qu'il allait y avoir des solutions. Mais à un moment donné, nous avons eu la sensation qu'on ne s'en sortirait jamais. Un sentiment de ne pas réussir à respirer, de perdre le goût et le sens de la vie. Le quotidien nous semblait vide, car il était impensable, surtout pour moi, de ne pas avoir d'enfant. Nous nous sommes forcés, nous soutenant l'un et l'autre avec mon mari, à regarder la vie qui nous entourait. Il s'agissait d'un exercice de la volonté, mais je me rendais bien compte que cela me rendait plus légère. Et puis nous avons accepté la situation pour nous projeter différemment. Ce qui nous a énormément aidés, c'est de nous tourner vers les autres, de garder notre foyer toujours ouvert et accueillant pour nos amis. Sans effacer notre douleur, cette disposition pour les autres l'a atténuée et nous a apporté de la joie. Donc c'était l'article sur la résilience, comment accepter ses fragilités, donc de Damien Le Guay, que vous pouvez retrouver en ligne sur le site de l'Invisible. Nous allons maintenant visiter le village Saint-Joseph. Alors qu'est-ce que c'est que le village Saint-Joseph ? Eh bien c'est un lieu. Il y a 5-6 adresses maintenant en France, donc vous pourrez d'ailleurs en prendre connaissance sur le site www.villagesaintjoseph.org, donc au service de la dignité. Voici donc l'article que l'Homme Nouveau a dédié au village Saint-Joseph que vous pourrez retrouver dans le numéro 1771. avec l'aide de la Sainte Famille, nous redonnons de la dignité et de la valeur aux hommes et aux femmes dans leur travail. Il n'y aura pas d'autre vainqueur que Dieu. Tel est le témoignage de Nicolas. Accueilli il y a quelques années au village Saint-Joseph, il en est désormais l'un des organisateurs. Né en 1998 d'une initiative privée, le village Saint-Joseph se donne comme ligne de conduite d'accueillir chacun comme un être infiniment précieux, dans le but de redonner du sens à la vie des personnes en difficulté. À l'origine, un constat simple. L'importance de la famille, cellule de base de la société. Elle est présentée par les responsables du village comme une église domestique, un lieu privilégié de partage et de guérison. Constituer des foyers chrétiens, donner une famille aux plus démunis, tel est donc le projet du village Saint-Joseph. Son développement, depuis près de 25 ans, témoigne de son succès et de sa nécessité. Après l'ouverture d'une première maison d'accueil à Plounévez-Quintin dans les Côtes d'Armor, d'autres maisons ont vu le jour dans le reste de la France. Des projets sont en cours à La Roche-du-Teil, en Ille-et-Vilaine, Écuelle, en Seine-et-Marne, et Saint-Martin-Boulogne, dans le Nord-Pas-de-Calais. Une association loi 1901 a été créée en 2001 pour soutenir cet effort et lui donner une plus grande ampleur, notamment par l'intermédiaire de dons. Il n'est sans doute pas nécessaire, en effet, de signaler qu'une telle association ne bénéficie pas de subventions publiques. Dans chacune de ces maisons, des couples chrétiens accueillent des personnes de conditions diverses, catholiques ou non, mais qui s'engagent cependant à respecter la vie chrétienne qui y est pratiquée. Personnes en situation d'addiction, sans ressources ou sans domicile, à la vie chaotique entraînant une fragilité affective ou psychique, personnes en situation de handicap ou simplement ayant perdu le sens de la vie, toutes sont les bienvenues. L'aide matérielle est une dimension importante du village Saint-Joseph. Mais l'essentiel réside en réalité dans un accompagnement personnel pour la reconstruction de chacun, afin d'aider les personnes à reprendre confiance, notamment à travers l'apprentissage du service et de la responsabilité. Trois piliers sont ainsi mis en avant. La vie spirituelle, favorisant l'intériorité, la vie fraternelle, pour restructurer chacun au sein d'une vie sociale, et les activités, sur un mode participatif, afin de mettre en valeur la dignité humaine et le sens du travail. Tels sont les principes d'une vie équilibrée et rythmée, ayant pour principal objectif la paix dans l'unité du corps, de l'âme et de l'esprit. Les week-ends sont consacrés au repos, dans la satisfaction de l'effort et du travail bien fait. Alors que le gouvernement français, fidèle à son progressisme mortifère, continue d'avancer dans le débat sur l'euthanasie, le village Saint-Joseph apparaît comme un lieu essentiel où tout homme peut continuer à vivre dans la dignité. Voici donc le témoignage de Bruno et de Nicolas. Je commence donc par Bruno. Bruno a été accueilli pendant une année, avant de repartir en juin 2017. Il a accepté donc de livrer son témoignage et de nous parler de son séjour au village. Il nous dit « Quand je suis arrivé au village, je n'avais qu'une idée, c'était d'en finir, de quitter ce monde. Dans l'idée que j'avais, une vie se devait d'être pleine et intense, et je n'avais pas pu accomplir ce que je voulais. L'honneur et la dignité étaient perdus, je voulais donc en finir. » Avant, je vivais en Australie et je suis revenue en France, chez mes parents, après plus de 16 années d'autonomie. Voyant mes difficultés, mon oncle m'a conseillé le village. Je suis venue faire ma semaine d'essai. Au bilan, je me suis dit qu'après avoir fait quelques essais de boulot en France, je n'avais pas le choix. Ou je crevais pour de bon, ou je me relevais pour de bon en pratiquant la vie avec Dieu. Avant, je croyais que tout ce qu'il me fallait, c'était ma femme, mes amis. J'étais croyant depuis l'âge de 20 ans, mais je ne savais pas qu'il y avait une autre perspective de vie avec Dieu. Ici, au village, j'ai découvert une autre façon de vivre. Loin du besoin d'être au top, toujours avec les meilleurs, en voulant le meilleur. Cet ancien mode de fonctionnement ne m'avait pas apporté de soutien. Pas d'amour. Je n'avais pas la paix. Ici, au village, au fil du temps, mon cœur a été guéri. J'étais aimée telle que j'étais par Dieu et par mes frères et sœurs. L'espérance renaissait. Je devais accepter qu'il y avait des choses sur lesquelles je n'avais pas de contrôle. J'avais beaucoup de mal au début à me lever. Mais je me suis forcée et petit à petit, j'ai pu me lever le matin. Et j'ai pu travailler, aller aux activités, avoir des journées bien occupées. J'ai pu avoir des temps de silence. Le rythme de vie, à la fois cadré et souple, m'a porté. Chaque jour, j'ai pu me relever un peu plus. Il y a eu des moments difficiles et ma foi, ma spiritualité est devenue mon essentiel. Il y a eu des moments où j'avais envie de partir. Mais je savais que ce n'était pas encore possible. Alors j'ai fait des séjours à l'hôpital. Il y a eu plusieurs fois où j'ai eu le cœur brisé quand les autres partaient. J'ai dû apprendre à gérer ces départs. J'ai aussi vécu des injustices, parce qu'on n'est que des humains, avec des variations, des émotions, des conflits. Il me fallait un axe, un centre fort et stable. Pour moi, Dieu était la réponse. Un autre élément difficile a été de donner mon téléphone pendant une période. C'était très dur. J'étais amputée de quelque chose qui me semblait essentiel. Heureusement, j'ai été épaulée et accompagnée dans cette étape. Et quand j'ai enfin pu récupérer mon téléphone une fois par semaine, c'était une libération et j'ai vraiment pu profiter de ces instants. Là, je ne sais pas si je peux dire que je suis suffisamment solide. C'est à moi de savoir mes limites, mes talents, mes fragilités et de les travailler encore. Le moment de repartir est venu. Je suis prêt et je repars vers un centre de réinsertion professionnelle sur Rennes. Une étape est franchie et le temps de sortir du cocon est venu. J'ai confiance. Donc c'était le témoignage de Bruno, une des personnes accueillies au village Saint-Joseph. Et voici le témoignage de Nicolas. Nicolas se présente comme malade alcoolique abstinent depuis 15 ans et demi. Il nous dit « Je suis l'aîné d'une famille catholique de 5 enfants. Mon enfance a été heureuse, avec une éducation relativement stricte. À l'âge de 11 ans, mes parents m'ont mis en pension chez les jésuites jusqu'à l'obtention de mon baccalauréat scientifique. Après ces 7 ans de collège et de lycée, de nombreuses heures de colle et l'éducation religieuse obligatoire, j'ai mis Jésus au fond de ma poche et mon mouchoir par-dessus. » Après un essai à l'université en biologie, je me suis engagée à 21 ans dans l'armée de l'air pour 5 ans comme contrôleur aérien. L'alcool est rentré dans ma vie. Puis j'ai fait une école pour être chef de chantier en bâtiment, travaux publics. L'alcool était toujours présent. Je me suis mariée civilement en 91. J'ai deux fils qui ont aujourd'hui 26 et 23 ans. En 97, j'ai divorcé et la longue descente dans la dépendance a commencé. En 2001, j'ai été licenciée de mon travail pour insuffisance professionnelle. La vraie raison, c'était l'alcool. J'ai fait 4 cures, 2 post-cures et de nombreux séjours en hôpital psychiatrique entre 2001 et 2004. Puis la Providence m'a sauvée de la noyade en découvrant le village Saint-Joseph. J'ai été accueillie dans une famille, sans qu'on me juge, par Katia et Nathanaël et 5 autres résidents. J'étais comme un légume, sans force, dépressif, incapable de gérer. Les premiers jours du sevrage physique ont été difficiles. Un frère me tenait mon verre pour boire tellement je tremblais. J'avais honte. J'ai pleuré des litres de larmes pendant de nombreuses heures avec Nathanaël pour raconter mon histoire. Lui, il priait pour moi. Il me parlait de sa guérison et de Jésus. Il me redonnait goût à la vie. M'encourageait dans le travail, la vie fraternelle et ma nouvelle vie spirituelle. 3 mois après mon arrivée, j'ai réussi à voir un prêtre. Je me suis confessée de 22 ans de vie de païen, de débauche, de luxure. Un peu plus tard, j'entends l'évangile dans notre chapelle. J'ai dû dire dans Saint Jean, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Ce verset m'a complètement transformée. Moi qui avais pris les mauvaises routes, qui vivais dans le mensonge et qui allais lentement vers la mort, je venais de comprendre que Jésus m'avait guéri et qu'il continuait à me guider. J'avais retrouvé la confiance et l'estime de moi. J'étais aimée. 3 ans de soins avec les psychiatres sans résultat. 4 mois avec la Sainte Famille et l'aide de Katia et Nathanaël. Chercher l'erreur. Je suis restée 10 mois au village pour conforter ma guérison et j'ai retrouvé un poste de chef de chantier. Puis j'ai rencontré Monique. Nous avons cheminé ensemble dans notre foi naissante avec nos blessures, nos guérisons, nos peines et nos joies. Cette rencontre, cet amour, on en est sûr, c'est l'œuvre de Dieu. Je suis maintenant un témoin de ce que Jésus a fait pour moi, dans ma vie, auprès des résidents que j'encadre et que je valorise dans leur travail. Monique m'a suivie. Elle anime bénévolement l'atelier cuir une journée par semaine. Nous faisons partie tous les deux du conseil d'administration. Avec l'aide de la Sainte Famille, nous redonnons de la dignité et de la valeur aux hommes et aux femmes dans leur travail. Il n'y aura pas d'autre vainqueur que Dieu. C'était le témoignage de Nicolas pour le village Saint-Joseph. Nous passons maintenant à cette culture chrétienne originale aujourd'hui, donc qui prend la forme plutôt d'un salon littéraire, où nous allons, dans un premier temps, parler de la dystopie, donc un genre littéraire très prisé par nos adolescents aujourd'hui, mais qui rejoignent des générations un peu plus âgées. Nous allons donc voir ensemble donc, ce que c'est, quels sont les risques, et surtout, quel est le potentiel de ce genre. Et pour après conclure ce petit salon littéraire, je vous proposerai donc une lecture analytique et synthétique, donc sur fond chrétien, de la saga culte Star Wars et de la série Les Anneaux de Pouvoir, donc tirée du Seigneur des Anneaux. La dystopie, qu'est-ce que c'est ? C'est un genre littéraire qui fait fureur chez nos adolescents et les jeunes adultes. Dans une ambiance sombre, faite de violence, de sang, et de totalitarisme, ces ouvrages mettent en scène un monde futuriste aux conséquences désastreuses pour la planète. Heureusement, un héros se lève, se rebelle et sauve l'humanité. Donc faut-il s'inquiéter de ces lectures et comment accompagner les jeunes lecteurs de dystopie ? Une dystopie, ça vend du rêve. C'est plus sympa à lire qu'un Maupassant avec un héros qui passe son temps dans une mine, nous lance Théo, 17 ans, aujourd'hui en école d'ingénieur. Il poursuit. C'est d'ailleurs grâce à ces lectures que j'écris aujourd'hui sans faute d'orthographe. Sa sœur surenchérit en disant « Ce sont des livres captivants, et en plus il y a toujours une histoire d'amour. J'en lis même certains en anglais. » Ces livres qui font fureur chez les adolescents dépeignent une société imaginaire et mettent en scène un monde futuriste, sombre et sinistre. Les plus célèbres, Divergente de Veronica Roth, Hunger Games de Suzanne Collins, Le Labyrinthe de James Dashner, Phobos de Victor Dixon, dont la plupart sont déclinés en trilogie et certains en films ou séries. La dystopie, c'est une utopie pervertie et inversée dont Le meilleur des mondes de Huxley, paru en 1932, est l'ouvrage fondateur. En anticipant les éventuelles dérives d'un univers technologique et ultra connecté, ces livres présentent un monde imaginaire, avec toujours un point d'ancrage dans la réalité, qui serait pire que le nôtre. Reflet de la société et de ses peurs, il surfe sur les notions de survie de l'humanité et d'un futur ultra angoissant. Léa, grande lectrice de ce genre littéraire, est aujourd'hui étudiante en double licence. Elle explique « La dystopie expose ce que le monde pourrait être, dans son côté le plus terrible, avec une technologie et une dictature destructrice de l'humanité des gens. » Hunger Games propose une société dans laquelle le filtre médiatique transforme les pires horreurs en divertissement et dont le gouvernement contrôle les citoyens à outrance. Ainsi, la population est forcée de regarder sa jeunesse s'entretuer. Dans Divergente, 5 factions sont mises en scène, avec l'obligation de faire partie de l'une d'elles. La question de rentrer dans un moule prédéfini est au cœur du livre, avec celle des groupes dominants et dominés. Cette littérature donc met en scène le côté le plus noir de l'humanité, avec effusion de sang, cruauté et totalitarisme. La violence est omniprésente et certains parents ou éducateurs sont affolés et parfois tentés de l'interdire aux jeunes. Solange, professeur dans un collège privé de la région parisienne, explique « Certes, la violence est omniprésente, mais cela ne doit pas être un sujet d'inquiétude. Les jeunes baignent dans cette culture et malheureusement y sont habitués. En revanche, l'aspect sombre, noir, désespéré est plus problématique. En effet, ces lectures peuvent être dangereuses sur des personnalités particulièrement émotives, hypersensibles, d'autant qu'elles alimentent le côté un peu spleen de l'adolescent. Enfin, il est difficile de s'y retrouver du point de vue éthique. Si un lecteur n'est pas clair avec les notions de bien et de mal, ce sont des lectures qui peuvent semer la confusion. Mais quels sont les points positifs ? De ce genre littéraire. Il y a toujours un héros qui vient défier la mauvaise autorité et qui donne envie de se rebeller. Une rébellion nécessaire lorsque l'autorité se révèle mauvaise et que le héros sent dans son cœur, dans sa tête, dans ses tripes qu'elle est néfaste. Grâce à ce contre-modèle, le bien est finalement mis en lumière. Cette littérature offre ainsi l'occasion d'avoir des discussions profondes. J'étudie ce genre littéraire pour que mes élèves soient au courant de leurs dérives, qu'ils aient un esprit critique et qu'ils puissent agir plus tard dans le monde. Mieux encore, ces œuvres véhiculent les valeurs chrétiennes. Peut-être parfois même, à dépend de leur auteur. Respect de l'autre, amour du prochain, respect du plus fragile. Ainsi, non seulement cette littérature est compatible avec l'esprit chrétien, mais elle peut être un tremplin pour l'évangélisation. Dans mes classes, j'en profite toujours pour parler du Christ. D'ailleurs, cette littérature donne l'envie de se rebeller. Et la révolution de l'amour n'est-elle pas au cœur de l'évangile ? Alors, comment accompagner les jeunes ? Il faut les éclairer, en discuter, faire un décryptage avec eux pour donner du sens à ce qu'ils lisent, mettre des mots pour faire émerger le positif, car le décodage est parfois difficile. Pour cela, il est important de s'informer sur le sujet. En lisant par exemple « Le Passeur », un classique du genre, ou en regardant le documentaire d'Arte, « Une dystopie devenue réalité », qui fait une analyse comparée des pères fondateurs du genre. Veillez aussi à ce que les jeunes découvrent cette littérature à un âge convenable, c'est-à-dire aux environs de 14 ans. Sinon, ils n'ont pas la maturité suffisante pour analyser les ouvrages. Il faut aussi consommer ces œuvres avec modération et encourager la diversité des styles de lecture. Pour contrebalancer cette ambiance sombre, il est important de proposer aux jeunes des vies de saints, des lectures de témoignages de personnes avec des vies rayonnantes. Les adolescents ont besoin de lumière. Nos adolescents ont-ils une préscience du monde qui vient ? Ressentent-ils donc à ce point une angoisse de l'avenir qu'ils finissent par manifester une forme de fascination-répulsion pour le côté obscur de la force ? Cette attirance apocalyptique, dans son sens dérivé, est aussi une soif de révélation à laquelle peut répondre le sens chrétien de l'histoire. Il y a une recherche légitime dans ce genre, bien évidemment. Mais il y a un défi pour le christianisme et un espace ouvert à occuper. Et il faut que la foi chrétienne investisse ces genres littéraires. N'oublions pas que le christianisme porte un récit complet et cohérent de l'histoire des hommes et de ce monde, depuis l'origine jusqu'aux fins dernières. Le temps est donc peut-être venu de remettre pleinement en lumière ce récit, et particulièrement la question des fins dernières. Ce serait une manière de manifester non pas un optimisme béat qui voudrait conjurer le pessimisme ambiant, non, mais le message de fond de l'espérance chrétienne. À travers les vicissitudes et les mystères de l'histoire visible et invisible, le monde court non pas à sa perte, mais à son salut. Nous allons maintenant lire un petit peu la saga Star Wars. Alors, à titre personnel, je ne connais pas beaucoup l'univers de Star Wars. Mais il faut savoir que, dans certaines répliques, notamment cultes, certains titres, cette épopée cosmique et mystique renvoie à ce qui fait notre humanité. La quête de bonheur jamais achevée, le sens de la vie et de la mort, la part intarissable de l'amour et la transmission d'une espérance. Donc, c'est peut-être l'occasion de relire et revoir Star Wars autrement. Dans le premier film, sorti en 1977, jusqu'à l'ascension de Skywalker, la saga Star Wars de George Lucas a rassemblé plusieurs générations. Inspirée entre autres du Seigneur des Anneaux de Tolkien, elle se divise en trois trilogies qui s'échelonnent sur plus de quatre décennies. Il semble que cela soit un fait unique dans l'histoire du cinéma, non seulement par la durée, mais par l'engouement durable des fans qui dépasse la seule exploitation commerciale. Et c'est là que ça devient intéressant. À l'instar des contes et des mythes, les films de la Guerre des Étoiles sont des récits initiatiques qui évoquent le surnaturel par la poésie, le merveilleux, la science-fiction. Cette épopée cosmique met en scène l'être humain dans un monde hostile, une galaxie lointaine où se déroule une lutte sans merci entre les chevaliers Jedi et les seigneurs Sith. Au centre de ce théâtre d'affrontement, il y a la Force. On ne connaît pas l'origine exacte de cette mystérieuse énergie qui procure des pouvoirs psychiques capables d'agir sur la matière, de lire dans les pensées, de guérir les blessures et même de ressusciter. Les Jedi s'épanouissent à la lumière de la Force, qui leur permet de maintenir l'ordre dans la République et de garder l'espoir malgré les rébellions et trahisons. Comme des moines bouddhistes ou chrétiens, ils se recueillent en silence dans la méditation, luttent contre la haine et la peur, s'exercent à maîtriser leurs pensées, à garder leur cœur pur et libre pour que la paix règne en eux et autour d'eux. Leur combat est donc spirituel. Ils témoignent de la responsabilité qui nous incombe de choisir entre la bienveillance et la malveillance, la vie et la mort. Il n'est jamais trop tard pour refaire ce choix, comme l'indique Dark Vador à Skywalker dans cette réplique « Je suis ton père ». Les Sith, eux, recherchent le pouvoir à tout prix. Ils pensent en termes de rapport de force et non de justice. Ils utilisent des moyens immoraux pour atteindre leur objectif. Le mal est une force non maîtrisée entre leurs mains. Ils basculent vers le côté obscur de la force à des fins personnelles pour détruire et dominer. Ils sont agressifs, imbus d'eux-mêmes. C'est ce qu'incarne le dictateur Palpatine qui parle du destin et de la force comme si c'était une divinité maléfique qui pervertit le bien. Nous retrouvons bien sûr ces figures diaboliques dans Le Seigneur des Anneaux avec Sauron et dans Harry Potter avec Voldemort. Comment la foi arrive dans Star Wars ? Alors nous devons aux Jedi, comme Obi-Wan, Kenobi et Yoda, la célèbre parole qui est devenue une autre réplique culte « Que la force soit avec toi ». Certains ont remarqué, à raison, la similitude avec l'expression liturgique chrétienne « Le Seigneur soit avec vous » ou la salutation de Jésus à ses disciples « La paix soit avec vous ». Pour Gary Kurtz, producteur des deux premiers épisodes de la première trilogie, l'expression viendrait de l'adieu d'origine médiévale « May God go with you ». Que Dieu vous accompagne, que Dieu vous garde. Lucas s'est inspiré de la Bible et du christianisme pour montrer que la lutte entre la lumière et l'obscurité est sans fin. Il aborde les grands thèmes qui placent l'homme et la femme au cœur d'une quête de sens et de transcendance. L'importance du Père, de la filiation, de la transmission, la fécondité de la vie plus forte que la mort, présence des défunts comme d'une sorte de communion des saints, service des autres, surtout des plus petits, la foi en soi et en la force, la grandeur de l'amitié, du courage, de la loyauté. Un grand-père témoigne. « J'ai vu la plupart des films avec mes enfants et petits-enfants. Ce fut un bon divertissement. Nos imaginaires se sont connectés aux mêmes images et dialogues. Le regard tourné vers l'écran. Au-delà des batailles, des effets spéciaux et des gadgets high-tech, nous avons été renvoyés à ce qui fait notre humanité. La quête de bonheur jamais achevée. Le sens de la vie et de la mort, la part intarissable de l'amour, la transmission d'une espérance. C'est cela aussi la magie de l'univers Star Wars. Et c'est peut-être comme ça qu'il faut regarder cette saga. Cette complicité entre les générations, ce lien fraternel qui nous construit, nous disent grand-père, sur la terre comme au ciel. Et pour terminer, je vous propose une petite analyse donc, tirée de la série d'Amazon, donc Les Anneaux de Pouvoir, donc, hein, comme vous le savez, qui est tirée du Seigneur des Anneaux. Dans cette petite analyse donc, qui correspond au dernier épisode de la saison 1, l'épisode 8, où il y a le visage de Sauron. Comment, en fait, à travers la révélation du visage de Sauron, comment le diable s'y prend aussi pour nous tenter ? Donc, Sauron, dans cet épisode, tente de séduire Galadriel selon des procédés qui ne sont pas sans rappeler ceux qu'évoquait Lewis, ami de Tolkien, dans son petit ouvrage « Tactique du diable ». L'épisode 8 de la saison 1 des Anneaux de pouvoir a le mérite de clôturer magistralement la saison. On connaît enfin la nature profonde des personnages mystérieux qui évoluent aux côtés des héros. La mise en scène de la stratégie de Sauron, alias Halbrand, est riche en enseignements sur la façon dont le mal nous trompe et nous pousse à des actions contraires à notre nature et à notre conscience. On peut comparer donc cet aspect de la série avec « Tactique du diable » de Lewis, dans lequel un démon expérimenté, Shkrutep, écrit à son neveu Wormwood, démon débutant, pour lui apprendre à faire tomber son client. Pour convaincre la puissante guerrière elfique aux allures de Jeanne d'Arc, le Seigneur des Ténèbres, comme le démon de Lewis, déploie une artillerie de puissantes tentations qu'il va chercher au fond de l'âme de sa proie, dans ses blessures et ses faiblesses. Sa stratégie est simple et efficace. Avant tout, il connaît nos points faibles, y compris ceux que nous avons oubliés. Sauron nous révèle que le diable est le plus ancien des psychanalystes, puisqu'il sait très habilement jouer avec la figure du grand frère Finrod et exploiter ses mauvais conseils. Or, le diable, comme Sauron, a justement intérêt à ce que l'on se rapproche de lui. Voici donc ses quatre astuces de tentateur. La première, c'est d'hypnotiser celui qui commet l'imprudence de se rapprocher. « Galadriel, regarde-moi » répète-t-il plusieurs fois sur différents tons, comme Ka dans les livres de la jungle. Il sait que la moitié du travail est faite quand la victime a accepté de s'intéresser à lui. Deuxième astuce, flatter l'orgueil tout en divisant, en inspirant la méfiance contre les vrais amis. Tous vous regardent avec méfiance, je suis le seul à voir votre grandeur. En grec, diabolos signifie diviseur. La division est son but le plus cher, l'orgueil son arme la plus efficace. Troisième astuce, donner l'impression qu'avec lui c'est du donnant-donnant et gagnant-gagnant. Il dit à Galadriel, je vous lie au pouvoir, vous me liez à la lumière. Dit-il alors qu'il sait qu'il est le plus fort. Il prétend n'être pas si mauvais, pouvoir changer et partager les objectifs. Il veut partager les nôtres. En réalité, lui ne changera pas, mais nous fera changer pour le pire. Quatrième et dernière astuce, la dernière cartouche de Sauron, c'est la peur. Celle qu'il n'emploie qu'en dernier recours, car il sait qu'il est plus efficace d'endormir notre méfiance. Il veut que nous craignions nos semblables, mais pas lui. C'est pourquoi il évite de l'utiliser tant que Galadriel n'a pas déjoué ses autres ruses. Galadriel a su donc distinguer le mal en celui qui se déguisait en bon, grâce à un détail crucial. Pour Sauron, sauver le monde et conquérir, ça n'a aucune différence. Aimer et posséder sont une et même chose. Or, l'elfe sait que l'amour accepte justement de ne pas posséder l'autre. Elle finit par se dégager de l'influence de Sauron en lui imposant une fin de non-recevoir sans équivoque. Cet épisode de tentation est crucial pour l'enseignement de nos adolescents et de nous aussi jeunes adultes. Dans la transformation de la Galadriel courageuse, mais maniaque et impulsive, au début de la série, vers la Galadriel aussi sage que puissante de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Au lieu de mettre toute son énergie à poursuivre Sauron, elle se concentre sur ce qui est vraiment utile, les trois anneaux elfiques, c'est-à-dire le règne du bien dans le monde. D'où l'importance de revisiter le sens chrétien de toutes ses œuvres. N'oublions pas que Tolkien a revendiqué sa foi toute sa vie, et en particulier dans le Seigneur des Anneaux.
Chers auditeurs, c'était notre émission La Revue de Presse de Claire. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.